Bonjour à tous et bienvenue sur ce 22e épisode de votre émission sport préférée. Bienvenue sur Temps Additionnel. On est le 20 juin et vous écoutez bien évidemment Radio Esprit Occitanie. Et avec Alex aujourd'hui, on a pas mal de choses à traiter. Adichas, à toi.
Adichas, Raphaël.
Au menu aujourd'hui, bien évidemment, on peut pas passer à côté. Hein. Notre moment préféré de l'été, c'est l'Euro 2024 qui a débuté. Et évidemment, sur Temps Additionnel, bon, on a tout suivi pour vous. Hein. On restera côté foot aussi, non pas pour l'Euro, mais pour la Copa América, la compétition de foot sur tout le continent américain qui débutera vendredi. On ira ensuite parler de rugby, les phases finales de top 14 ont débuté, le barrage d'accession a aussi donné son vainqueur. On verra tout ça donc tout à l'heure. Le rugby aussi se joue à 13 et en tant que Toulousain, on vous parlera du Toulouse Olympique, le Théo 13 qui se régale en championnat cette saison. Et pour finir, on ira au Mans, le mythique circuit du Mans, pour les 24 heures qui ont lieu ce week-end et on a eu pas mal de rebondissements. Bon, on commence cette émission avec l'événement majeur de cet été avec les JO, c'est l'Euro de football qui a démarré, comme vous le savez, ce vendredi 14 juin, et qui se terminera le 14 juillet avec Alexandre. On a noté quand même quelques rencontres marquantes, on approfondira un peu plus sur les matchs français, italiens et portugais évidemment, mais d'abord on va commencer par le match d'ouverture entre les Allemands, pays hôtes de cet Euro, qui accueillait donc les Écossais, score final 5-1 pour l'Allemagne dans le groupe A, donc des Allemands en très très grande forme. Et des Écossais pas aidés par leur inefficacité, par un carton rouge pris en seconde mi-temps, zéro tir cadré, malgré le but, c'est un contre son camp de Rudiger. Alex, toi, t'en as pensé quoi de ce match?
Franchement, mentalité allemande, hein, 5-1 Écosse, je m'attendais pas trop non plus à ce score, mais c'est vrai que l'Écosse avait vraiment du mal contre l'Allemagne, hein. L'Allemagne n'arrêtait pas de dominer, en même temps, c'est chez eux, c'est normal. Hein.
C'est vrai, Yanis, toi, t'as vu des trucs, non? C'était quand même impressionnant la victoire allemande.
Ouais, après, on s'en doutait un peu tous, je pense. Oui. L'Allemagne qui est restée sur de gros échecs lors des deux dernières grosses compétitions. Donc là, ils ont répondu présent d'entrée. Et surtout, on a vu que les jeunes joueurs comme Wirtz, Moussiala, ils sont directement rentrés dans leur compétition. Donc, après, l'Écosse était quand même assez faible en face. On ne s'attendait pas à un gros accrochage, mais l'Allemagne a fait le boulot, l'Allemagne a fait un bon match. Donc attention à eux sur les prochains matchs.
Ouais, c'est ça, prochain match contre la Hongrie, donc ça va être aujourd'hui. Et c'est sûr qu'après, l'Écosse, c'était pas solide en face. Et comme tu l'avais dit aussi, 2018 et 2021, c'était gros échec quand même pour les Allemands. Donc après, les nouveaux Wirtz, comme tu as dit, il a fait une saison extraordinaire avec le Bayern. Et s'intégrer aussi vite comme ça, ça fait plaisir. Donc attention à eux, je les voyais pas si favoris que ça, mais après leur match contre l'Écosse, franchement, ils m'ont convaincu. Après, on va passer à l'Italie, qui a gagné 2-1 face à l'Albanie dans le groupe B. C'est un but quand même albanais encaissé à la 22e seconde. Un des plus rapides, voire le plus rapide, je crois, de l'histoire de l'Euro. Donc bonne réaction quand même italienne en moins de 5 minutes, qui renverse le score. Qui passe de 1-0 à 2-1 en la 15e minute, je crois, il y avait 2-1 pour l'Italie. Donc ils m'ont quand même pas mal impressionné, cette équipe italienne.
Allez, oui, après, c'est vrai que moi, je m'attendais pas du tout à ce but. Hein. À peine je m'installe, déjà, il y a but pour l'Albanie. Bon, on a peut-être laissé l'opportunité à l'Albanie juste de rêver un petit peu. Mais bon, après, on est quand même l'Italie. On est quand même revenu. Mais bon, ce que j'ai pas trop aimé côté italien, c'est que justement, ils jouaient toujours en arrière. Le rythme était assez lent, c'était assez ennuyeux à voir. Mais en fait, ce qui est bien, par contre, c'est que l'Italie est quand même revenu à deux buts, but de Bastoni, parce que en fait c'est Di Marco qui fait l'erreur justement, qui fait que Bajrami marque le but, et après il y a aussi Barella. Hein. En fait c'est deux coéquipiers qui jouent à l'Inter, ils ont fait gagner l'Italie quoi. Mais bon, j'ai pas retenu non plus une performance exceptionnelle, et je vais finir aussi par rapport à un joueur qui par contre m'a impressionné côté défense, c'est Calafiori. Il joue à Bologne, avec Bologne, ils sont en Ligue des Champions là pour la saison prochaine, et Calafiori qui a commencé son match de l'Euro, il était exceptionnel.
Yanis, toi peut-être un truc, parce que moi je pense que l'Italie aurait pu ou dû alourdir le score vu les occasions qu'ils avaient quand même.
Ouais, mais après c'est un premier match, faut que les équipes se mettent en place. Le premier match, il est jamais facile, c'est toujours compliqué. On a vu que par exemple hier soir le Portugal a pas mal galéré aussi contre la République tchèque, ouais. La Belgique qui a perdu contre la Slovénie. Donc ils ont gagné, c'est le principal quand même, faut se dire ça. Ils ont eu un but. Bon, à mon avis, ils reprendront pas un but comme ça d'ici la fin de l'Euro, à mon avis. Donc voilà, faut garder le positif, faut dire que c'était le premier match et ils peuvent que mieux faire pour les prochains.
Ouais, c'est ça, parce que personnellement, moi, j'avais des gros doutes sur les performances italiennes, parce que certes, c'est les tenants du titre, mais on sait de quoi ils sont capables dans les grands rendez-vous comme ça. Donc bon, premier match pour l'Italie réussi, on va passer quand même peut-être à l'Espagne contre la Croatie, l'Espagne qui a surpris. Gros match de l'Espagne, 3-0 victoire, donc dans le groupe B, une équipe espagnole, ben, franchement, qui a surpris tout le monde. Hein. On les attendait à un niveau évidemment assez élevé, mais pas à un tel niveau de maîtrise, et la Croatie, ben, elle est assez décevante au niveau quand même de ses derniers parcours, finaliste de 2018, 2022, elle a fini 3e. Donc on les attendait un peu plus haut. Après, comme tu l'as dit, Yannis, c'est le premier match, mais 3-0, c'est quand même, ça montre quand même des choses.
Franchement, score sévère. Hein. L'Espagne 3-0, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais peut-être que le match était un peu plus serré, parce que oui, c'est vrai que, comme tu as dit, la Croatie était un petit peu mal à chaque fois en phase finale. Ça n'arrive pas à se qualifier pour la finale. Bon, à la Coupe du Monde, on se rappelle, demi-finaliste. Mais là, après, c'est que le premier match de l'Euro. Hein. Je veux dire, oui, la Croatie se fait prendre 3-0, mais peut-être que dans les prochains matchs, ils vont peut-être se réveiller et faire ce qu'on connaît de la Croatie. Enfin, tu m'as compris, quoi.
Ouais, ils ont intérêt, de toute façon. Toi, l'Espagne t'a surpris, non, un peu?
Ouais, je m'attendais pas du tout à un niveau de jeu comme ça. L'Espagne, elle a quand même de très bons joueurs, et notamment Rodri qui a fait un gros match, même s'il est sorti sur blessure. Non, l'Espagne, franchement, elle m'a surpris. Et après, à contrario, bon, la Croatie, j'avais plutôt tablé pour un match nul sur ce premier match. Mais la Croatie, qui a une équipe qui est quand même assez vieillissante, c'est très vieux, alors que l'Espagne, qui elle avait ses problèmes, elle a réussi à très bien se rajeunir. Donc, notamment avec Lamine Yamal qui a fait beaucoup de bien sur son côté. Non, franchement, l'Espagne m'a un petit peu choqué. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, ça fait plaisir et on a hâte du match contre l'Italie.
Ouais, gros match après contre l'Italie, parce que l'Italie ne doit pas se rattraper mais doit confirmer face à la grosse équipe espagnole. C'est un peu le duel. Ça doit être les deux potentiels premiers de ce groupe qui vont se battre. Premier, ça donne forcément un avantage pour les huitièmes de finale. On va juste passer à la rencontre du groupe C. La seule que j'avais notée, c'est l'Angleterre contre la Serbie. Donc les Anglais, rayonnant en première période. Il y avait du bon jeu, il y avait mais totalement donc éteint en seconde période. Et la Serbie, j'ai vu, a même failli revenir à quelques reprises et on s'endormait en seconde mi-temps. De toute façon, le jeu de Southgate, de Gareth Southgate, on le sait, on s'endort. Victoire, Bellingham, évidemment, qui marque, mais victoire dure. Hein, c'est un diesel, l'Angleterre, j'ai l'impression, là.
En plus, la Serbie était revenue un petit peu avant la mi-temps parce qu'ils étaient vraiment endormis, sans parler de l'Angleterre. C'est vrai que le but de Bellingham permet à l'Angleterre un peu de faire ce qu'elle veut. Je veux dire, là, sur le terrain, ça se voyait qu'ils contrôlaient vraiment le match. La Serbie avait vraiment du mal. Vlahovic avait aussi du mal quand il récupérait le ballon. De suite, il se faisait chipper le ballon. Je ne m'attendais pas grand-chose de la Serbie, mais je suis un peu déçu quand même pour l'Angleterre parce que 1-0, je me dis, ça ne suffit pas contre une équipe. Alors, c'est vrai que la Serbie a des bons joueurs, Kostić, Vlahovic. Mais l'équipe d'Angleterre, c'est un niveau supérieur.
Exactement, Yannis.
Oui, déçu aussi, parce que l'Angleterre, tout le monde voit l'équipe qu'elle propose. Il y a des excellents joueurs partout. Oui, 1-0, on est un peu déçu. Mais c'est le premier match, encore une fois. Il faut laisser le temps, même si on a l'habitude que les Anglais choquent quand même.
Ouais, c'est vrai. Mais après, ils ont une équipe quand même extraordinaire. Ils ont des top players à chaque poste. Hein. Chaque poste, ils ont des joueurs incroyables. Mais c'est lent, c'est dur. C'est beaucoup d'individualité qui n'arrivent pas à se mettre en place. Rencontre du groupe D, il y en a une. C'est la France, hein, 1-0 contre l'Autriche. Donc victoire, match similaire à celui de l'Angleterre, hein, très bon entame de match, puis plus rien. Heureusement qu'il y a eu le compte son camp, parce que sinon je pense un bon vieux 0-0 comme Didier Deschamps aime le faire en phase de groupe. Ça, le 0-0 pointait le bout de son nez. J'avais noté quand même Kanté, incroyable son retour. On dirait qu'il était, ça faisait 2 ans qu'il était parti, on dirait qu'il n'est jamais été parti, quoi. Il est incroyable, il a 6 poumons le type, il fait des sprints de 80 mètres à la 80e minute, il arrive à sauver le ballon du 1 partout. Donc Kanté, incroyable, et rencontre assez physique, hein, on l'a vu avec les blessures de Griezmann contre le panneau, la fracture du nez de Mbappé d'ailleurs, qui sera forfait contre les Pays-Bas, on l'a vu. Donc match intense, dur aussi. Bon, on a l'habitude des matchs d'équipe de France un peu durs en phase de poule. En 2018, c'était dur au niveau du jeu, mais au final, on est allé soulever la coupe. Donc Alex, toi, t'as retenu quoi du match?
Bah, c'est vrai, bah, je reviens par rapport à ce que t'as dit sur Kanté, il a été exceptionnel. On dirait vraiment qu'il a pas quitté l'équipe de France, ça fait pas que 2 ans, j'ai l'impression que bah, il a joué il y a pas longtemps. Ce mec, il a 4 poumons. Tout le match, il a vraiment muselé les Autrichiens. Ça, ce que je retiens surtout de ce match, c'est surtout bah, la performance de Kanté. Voilà. Après, oui, bah, comme tu as dit, hein, beaucoup de fautes côté autrichien. C'est un peu dommage de voir Mbappé qui est blessé, qui va rejouer, je crois, il me semble, aux phases finales. Partie de phase finale, il revient.
Partie de 8e, ouais, il est pour les phases de groupe, il est out.
Normalement, ça a été officialisé, okay. Ouais. Parce que là, il va se faire opérer du nez. Griezmann, c'est vrai, quand il tombe sur le panneau publicitaire, je ne m'attendais pas à ça. En fait, j'ai l'impression que les Autrichiens n'ont pas été assez sanctionnés par rapport à tout ça. Et ben, je vais finir par rapport au fait que, en vrai, même s'ils ont fait pas mal de fautes, j'ai trouvé que la défense autrichienne était assez compliquée, en fait, à passer. Hein, et pour une équipe comme l'Autriche, en vrai, elle m'a un petit peu impressionné juste pour ça, mais je suis quand même déçu parce que ben, voilà, la France n'a pas marqué. Enfin, aucun joueur français n'a marqué. Ben, c'est juste un coup de sang autrichien, quoi. Mais en vrai, ça promet. J'espère que la France va mieux faire contre les Pays-Bas, quoi.
Ouais, moi pour ma part c'était un match piège, on l'a bien vu, hein. Et pourtant l'Autriche, je pense qu'il manquait quand même le meilleur joueur qui est David Alaba. Bon, après ils ont de très bons joueurs comme Baumgartner qui a failli marquer.
Ouais aussi, ouais, on s'est fait peur là.
Ouais, ouais, vraiment. Mais l'Autriche a quand même une belle équipe, ça joue pas trop mal au foot. Donc c'était un match qu'il fallait gagner, on l'a gagné, ça a été dur. Mais bon, on sait très bien que les matchs comme ça, l'équipe de France, elle gère, elle s'est maîtrisée. On a l'habitude depuis un moment. Mais bon, on est content, on a gagné, on rentre bien dans l'Euro. Et bon, vendredi, ça va pas être la même histoire contre les Pays-Bas, ça va être très compliqué, je pense.
Ouais, parce qu'ils ont gagné contre la Pologne. Et après, je sais pas, parce que l'animation offensive va être forcément différente, parce que ça sera Giroud titulaire. Et je pense pas que ce soit un bloc bas après les Pays-Bas qui jouent contre nous. Ils vont peut-être laisser plus d'espace et ça va peut-être laisser aussi plus d'opportunités à Dembélé ou Thuram de s'exprimer sur les côtés. On sait que Thuram, bon, mauvais match de Thuram, on l'a vu, c'est pas son poste de base. Donc il y aura plus de buts et plus d'opportunités. Je pense pas qu'on s'endorme devant ce France-Pays-Bas. Première surprise aussi de l'Euro, c'est quand même la Slovaquie qui bat la Belgique dans le groupe E. Donc grosse surprise, hein, les parieurs, deviennent fous. Une Belgique stérile, hein, qui encaisse un but à la 7e minute et parvient pas à revenir. 2 buts belges refusés. Et donc une obligation de se relancer contre la Roumanie, qui elle aussi a fait un carton, on verra après. Mais Belgique, c'est chaud quand même, c'est décevant.
Franchement, là, la Belgique, je sais pas quoi dire en fait, parce que la victoire contre la Slovaquie serait très belle performance de la Slovaquie. Mais en vrai, ils ont eu de la chance parce que Lukaku a quand même eu 2 buts refusés. Après, on voit que Lukaku, il aimait bien jouer aussi la limite avec le hors-jeu. Ce qui fait que... Bon, faites attention, parce que le 2e but, c'est Openda qui met la main. Et c'est au moment où Lukaku il reçoit le ballon et il marque que c'est refusé. Et la Slovaquie a eu de la chance. Mais je pense que le joueur qui a vraiment raté fait que la Slovaquie a gagné, c'est Trossard. Parce qu'à un moment, t'as le gardien slovaque qui quitte ses cages. Et Trossard, au lieu de faire la passe à Lukaku... Après, on connaît Lukaku, hein, on sait qu'il rate, mais peut-être qu'il pouvait la mettre parce qu'il n'y avait plus le gardien. Et il a préféré tirer de loin, et bon, c'était pas cadré, quoi.
Denis, peut-être un avis?
Ouais, grosse surprise, hein. La Belgique, qui n'est peut-être pas l'un des favoris, mais qui a quand même une grosse équipe, qui peut faire quelque chose. D'entrée de jeu, de perdre, surtout contre la Slovaquie, bon, c'est compliqué. Va falloir qu'ils gagnent impérativement leur prochain match, sinon ça va être très compliqué. Mais bon, voilà, ça fait toujours un petit peu plaisir de voir la Belgique perdre. Bon, on crache pas dessus, quoi.
Je pense que c'est un petit 1-0 en plus, ils commencent à avoir l'habitude.
Ça.
En parlant du groupe E, on va rester sur le groupe E, c'est la Roumanie qui a fait la grosse surprise, 3-0 contre l'Ukraine. Donc beaucoup de personnes voyaient l'Ukraine comme outsider, hein. Je crois qu'on en avait parlé un peu avec Alex. Il y a des bonnes individualités, il y a Lounine dans les buts, il y a Mudryk devant, donc il y a des opportunités de faire un bel euro, et aussi Zinchenko d'Arsenal qui est pas mal, donc il y a des bonnes individualités qui permettent peut-être d'aller décrocher peut-être des quarts de finale à la Islande en 2016. Et là, 3-0 sec, c'est chaud.
Ouais, exactement, t'as tout dit pour l'Ukraine, hein. c'est un des outsiders, ils ont des bons joueurs. Je me rappelle de la qualification à l'Euro quand l'Italie était en galère, on devait impérativement battre l'Ukraine pour se qualifier. C'était très compliqué, franchement, contre l'Ukraine. Je me disais justement si on pouvait peut-être prendre un but par surprise. La Roumanie 3-0 contre l'Ukraine, c'est vraiment une surprise. La Roumanie, je ne m'attendais pas du tout à ça. Très belle frappe d'ailleurs, magnifique but hein, des Roumains de loin comme ça. Alors que moi, ce que je reproche un peu dans cet Euro, c'est que beaucoup de joueurs ne tentent pas des frappes de loin. Tu sais, la plupart, ils sont toujours en surface.
Mais ils font des passes. Il y a beaucoup de blocs bas.
C'est ça, beaucoup de blocs bas. Mais là, bon, j'ai que ça à dire. Hein, Roumanie, énorme surprise.
3-0. Donc la Roumanie qui va affronter la Belgique. La Belgique obligée de se relancer. Et le classement du coup du groupe E, c'est quand même Roumanie, Slovaquie, Ukraine, Belgique. Donc c'est vraiment totalement l'inverse à ce qu'on s'attendait. Donc après, à voir si ça fait comme à la Coupe du Monde avec le groupe du Japon, tout ça. Si ça va s'enflammer un peu les dernières journées, donc on verra. Et dernier match qu'on voulait traiter, c'est le Portugal face à la République tchèque. Donc bah, une équipe portugaise convaincante hein, dans le jeu en première mi-temps, mais bah, elle est bloquée clairement devant la surface, comme la France, l'Angleterre. C'était un peu les mêmes matchs. Et en seconde période, bah, but bah, encaissé logiquement avec l'inefficacité portugaise, hein, une frappe tentée dans les 30 mètres. Il n'est pas attaqué, première intention, c'est but. Et le compte son camp provoqué par les Portugais est plein aussi d'opportunisme, mais c'est mérité au vu des temps forts créés en seconde mi-temps. Et le second but, c'est un but des renards des surfaces de Conceição qui est très bien placé et qui mène les siens à la victoire dans le temps additionnel. Donc Portugal qui démarre bien l'Euro, qui s'est fait peur, marque dans le temps additionnel. Donc bon, ça fait plaisir quand même.
Oui, ils se sont fait peur, mais première période, c'était très ennuyeux. En fait, j'ai l'impression que le Portugal voulait trop jouer sur Cristiano Ronaldo, qui, Ronaldo faisait un peu comme Lukaku, c'est-à-dire qu'il jouait toujours à la limite du hors-jeu. Et la République tchèque a quand même fait un magnifique but de provo, rien à dire. Heureusement que le Portugal est revenu, parce que je me dis franchement, le Portugal qui se fait battre par la République tchèque, pardon, c'est vraiment
un sketch. Ça aurait été match nul, mais c'est vrai que, on l'a dit, ça peut-être sonnait comme une défaite s'il y avait un match nul, quoi. Donc, c'était chaud.
Ouais, ça aurait été un match nul. Ça aurait été un moindre mal au vu du match. Parce que les Tchèques ont très bien défendu. Ils n'ont pas laissé beaucoup d'opportunités aux Portugais. Ils ont défendu. Ils défendaient à 10, à 11 même dans leur camp. Donc, il fallait déplacer. Les Portugais, ils ont plutôt bien réussi. Ils avaient un manque de réalisme. Ils s'étaient créé pas mal d'occasions quand même. Ils avaient bien inquiété le gardien tchèque. Mais sur le premier but portugais, je pense qu'il y a beaucoup de chance aussi. Parce que quand on voit le gardien tchèque, son sauvetage, il est un peu bizarre. Le premier but, il est à mettre au crédit du gardien. Et après, sur le deuxième but, ouais, c'est bien fait, c'est bien construit. Quand c'est ça, il est là au bon endroit, au bon moment, et il a juste à terminer l'action.
En plus, il venait de rentrer, je crois, il n'était pas titulaire, ouais. Donc c'est un de ses premiers ballons. Il rentre, il marque, franchement, ça fait plaisir, et c'est surtout de bonne augure, parce qu'on sait que si on gagne par les deux prochains matchs, on peut faire tourner sur le troisième pour être en forme sur les huitièmes, donc il faut impérativement gagner ce premier match. On va passer peut-être au prochain match de l'Euro qui vont débuter quand même. On a fait à peu près le tour des événements les plus importants. On a donc la Croatie face à l'Albanie. La Croatie donc, qui doit se relancer face à une équipe albanaise aussi qui a perdu. Espagne-Italie, c'est le gros choc du 20 juillet. C'est le seul match à 21h. Espagne-Italie, je sais pas le vainqueur. L'Italie peut faire une grosse surprise quand même parce qu'on rappelle qu'ils ont quand même gagné l'Euro. Donc ils peuvent créer la surprise. Mais l'Espagne est en grande forme. Prochain match de la France, c'est contre les Pays-Bas. Ce sera le 21 juillet à 21h. À voir l'info. Il faut gagner pour pouvoir faire tourner sur ce prochain match contre la Pologne. Donc on verra bien. Et après, le prochain match du Portugal, c'est contre la Turquie le 22. Ils doivent aussi confirmer face à une Turquie qui a gagné. Le beau but aussi d'Arda Güler, on n'en a pas parlé, mais très très beau but d'Arda Güler. Donc une Turquie en forme. À chaque fois, on les voit comme les outsiders. Peut-être qu'ils vont confirmer ce rôle qu'on leur a donné. Donc tout ça à suivre. On vous tiendra au courant. De toute façon, la semaine prochaine, on va passer à la Copa América pour terminer cette petite rubrique. Grosse rubrique foot. La Copa América donc qui va débuter cette semaine. On a des gros noms, on a l'Argentine, le Canada, le Mexique, le Brésil et même les États-Unis ou l'Uruguay. Donc premier match c'est Argentine-Canada. Donc en match d'ouverture c'est un gros match. Le Canada qui a des très bonnes individualités, je pense à Alphonso Davies. Et l'Argentine qui doit confirmer après sa victoire en Coupe du Monde. Vous avez peut-être des choses à dire sur la Copa América, un petit favori?
Un petit favori, bon, l'Argentine quand même ou le Brésil, je pense que ça se tape un peu sur. Sur ça, après, l'Uruguay peut être pas mal, parce que, Arojo, je sais pas.
Le Brésil, après, le Brésil, on a vu les déclarations de Ronaldinho, qui avait dit qu'il allait pas regarder parce qu'il est pas convaincu du niveau de jeu du Brésil. Donc à voir, ouais, Argentine-Brésil comme d'habitude, et peut-être un petit Canada qui peut aller chercher peut-être une finale ou une demi-finale.
Moi je mettrais bien une pièce sur le Chili, pas parce qu'il y a Gabriel Suazo qui joue au TF, mais le Chili, ils peuvent être pas mal, ils peuvent créer la surprise, je pense.
C'est vrai, c'est vrai. Après, ils ont un gros groupe, hein, Canada-Argentine. Bon, Pérou, c'est un peu plus faible, mais Canada-Argentine, c'est un très très gros groupe. Et ouais, on verra ça, on verra ça. De toute façon, ça commence le 21, donc on va tirer dans le courant. C'est dans les nuits du 21 au 22 juillet. Bon, on va parler de rugby, fini le foot pour aujourd'hui quand même, hein, ça y est, on en a assez parlé de l'Euro. Le rugby et les phases finales de Top 14 donc, qui ont débuté le week-end dernier. Premier match, c'était le RCT Toulon contre le Stade Rochelet. Victoire du Stade Rochelet 34 à 29, hein, grande maîtrise de La Rochelle dans l'ensemble du match. Mais ils se sont fait peur quand même en fin de partie avec deux cartons jaunes reçus à 10 et 15 minutes de la fin, ce qui les a fait évoluer à 13, hein, donc c'était pas du rugby à 13, mais ils étaient à 13. En moins de 10 minutes, on est passé de 15 à 34 à 29 à 34, donc 14 points inscrits donc dans ce laps de temps pour les Toulonnais, mais ça n'a pas suffi aux joueurs varois pour recoller au score, déjà bien trop distancé par les Rochelais et dès l'entame de la seconde période, hein, les jaunes et noirs rejoignent donc Toulouse en demi-finale de ces phases finales de Top 14, un match qui se jouera au Matmut Atlantique de Bordeaux ce vendredi 21 juin, juste avant le match de la France, donc vendredi, fête de la musique, Stade Toulousain, France, on va se régaler. Et soyons un peu chauvins quand même, espérons une belle victoire toulousaine qui leur permettrait de continuer leur objectif de doubler Coupe d'Europe, championnat. Et ça permettrait aussi aussi de régaler toute une ville face à un adversaire qui aime bien nous compliquer la vie, puisque bah, sur les 5 dernières confrontations, c'est 2 victoires pour La Rochelle, 2 pour Toulouse et un nul, on l'a vu le dernier en championnat. Donc le match de vendredi donnera sûrement l'avantage à une des deux équipes, Alex, t'en penses quoi ?
Franchement, Stade Toulousain, Stade Rochelet, bon, que dire, c'est toujours un énorme duel, on ne sait pas qui va gagner, mais je pense que le Stade Toulousain qui va aligner son équipe première, c'est pas comparé aux autres matchs du Top 14. On s'est quand même bien, si je peux dire, c'est quand même bien démerdé.
C'est vrai, avec une équipe B, voire une équipe C.
Contre le Stade Rochelet qui avait l'équipe A, A', B, c'est bref. Ça. Et après, peut-être t'as pas trop parlé, mais enfin, de Stade Français Bordeaux-Bègles, mais franchement, ça va être un duel de fou. Hein. Ça va être
ouais, incroyable. Non, mais non, j'en parle après de Stade Français Bordeaux-Bègles, ouais. Normalement, j'en parle.
Mais justement, si jamais, imaginons, on gagne contre le Stade Rochelet. Si jamais on est en finale Stade Toulousain Bordeaux-Bègles, ce serait
exceptionnel. Franchement, le duel de la Garonne, ce serait pas mal. Et justement, on va passer au deuxième match, hein, l'UBB contre le Racing qui a gagné 31 à 17. Donc, le deuxième quart de finale de ces playoffs de Top 14, voyez les joueurs du UBB contre le Racing. Et c'est les Bordelais qui sont imposés dans un match plein de maîtrise, hein, de l'Union, où les joueurs ont réussi à prendre le large en toute fin de première mi-temps avant de dérouler le spectacle en seconde période. Laisser Francilien en toute fin de match n'y changera rien, c'est l'UBB qui file en demi pour affronter l'équipe qui a fini juste derrière le Stade Toulousain. C'est le Stade Français qui accueillera donc les Bordelais pour ce match d'accès à la finale de Top 14, ça se passera à Paris le 22 juin à 21h05. Donc on espère en vrai une petite finale Garonne pour voir qui a la Garonne au rugby, donc on verra bien. Donc 22 juin à 21h05 à suivre. Et il y a eu les barrages aussi, avant de passer au rugby à 13, il y a eu les barrages. Pour l'accession ou la non-accession au Top 14, Grenoble contre Montpellier, c'est Montpellier qui s'impose. Il n'y aura donc qu'un seul petit nouveau l'année prochaine en Top 14. Vannes sera la seule équipe de Pro D2 qui sera promue, puisque Grenoble a perdu contre Montpellier le barrage de Top 14 de cette saison 2023-2024, dans un match hyper serré où tout aura été possible dans ce barrage. Hein. D'abord une très belle combativité grenobloise en première mi-temps, mais qui leur a permis de mener 18 à 14 en première mi-temps. Puis, les Isérois ont craqué et c'est sûrement le manque de discipline en fin de match qui les a fait lâcher mentalement. Deux pénalités provoquées à la 63e et 77e ont permis aux hommes de Patrice Collazo de passer définitivement devant. À 3 minutes de la fin, Grenoble qui lâche Montpellier avec l'expérience peut-être du Top 14 mentalement. Donc se maintient en Top 14. Donc il n'y aura que Vannes en nouveau cette année. Mais franchement, ça fait plaisir, une petite équipe bretonne. T'as un truc à dire ou pas, Alex, ou c'est bon
Ouais, par rapport à Grenoble, moi je dis juste, hein, pour finir, que c'est vraiment l'équipe malchanceuse. Hein. Déjà, ils ont perdu contre Vannes pour l'accession à la montée en Top 14. Ils avaient la possibilité d'affronter Montpellier, qui était vraiment en difficulté en Top 14. Je pensais que Montpellier allait descendre pour des deux. Et rien qu'avoir le score 18 à 20, tout s'explique. Hein. Montpellier a eu de la chance, Grenoble n'a pas eu de chance.
Exactement. Bon, on va passer peut-être au rugby à 13. Maintenant, Alex, tu as suivi un peu ce choc, je suis choqué de ce score, le TO13, donc le Toulouse Olympique, a collé une raclée 52 à 0 contre Doncaster. Ça fait quand même plaisir pour le championnat, c'est quand même incroyable, 52-0. Au rugby à 13, il y a un peu moins de score qu'au rugby à 15, mais là, 52. Ça fait mal. Toi, t'avais suivi un peu pour nous le TO13, c'est
bien sûr, toujours, faut suivre le TO13 là.
Évidemment.
C'était pas une défaite, hein. C'est une humiliation, c'est un chaos premier round. On a terrassé Doncaster, un concurrent pour la montée, comme si c'était une équipe de district. Bah, en tout cas, bah, c'est une très grosse performance que nous a pondu le TO, qui arrache donc sa 5e victoire d'affilée. En fait, on est trop chaud à Toulouse, Raphaël, vraiment, parce que...
Vraiment incroyable, hein.
Voilà ce qui se passe pour ceux qui viennent nous défier Ernest Vallon. On vous met des sales scores, 52-0. Bon, franchement, pour le coup, bah, le TO s'est transformé en Stade Toulousain. En fait, j'arrive toujours pas à croire que Doncaster nous a mis 0 points. En fait, c'est presque gênant.
Ouais.
Grosse force, hein, ça arrive de se prendre des roustes. Dis-toi qu'il y avait 24-0 pour le TO à la mi-temps. Peut-être que le coach de Doncaster devait se dire « Ah, c'est pas grave, hein, ils reviendront en seconde période. » Eh ben, que dalle, ils ont eu 0 sur 20. Bon, allez, j'arrête de les chambrer parce que là, oui, on a fait 5 victoires de suite, mais un jour, ça s'arrêtera. Faut que je parle d'un joueur qui a vraiment été incroyable, c'est l'arrière du Toulouse Olympique, Mr. Oli Achalbot, qui a été formé à Widnes Vikings. Bref, en tout cas, le prochain match, le TO se déplace en Angleterre pour y affronter le 7e, hein, de Betfred Championship, Batley Bulldogs, qui, on le voit qu'ils sont en forme, mais attention à cette équipe.
C'est ça, ils restent sur 3 victoires d'affilée. Bon, nous aussi, on est dans le même rythme que Whitefield, hein, les premiers, donc... La forme du moment est clairement côté Toulousain, même si cette équipe de Batley est en grande forme aussi. Mais franchement, 52-0, c'est plein de confiance. En plus, à la maison, ça fait plaisir, franchement. Le TO13 qui passe donc 4e, hein, ils étaient restés pas mal de temps 5e, bloqués la 4e. Est-ce que le TO13 joue le titre?
Alors là, il y a 2 points d'écart entre Sheffield qui est 2e et Toulouse 4e. Hein. En fait, il faut qu'on gagne, il faut que Widnes Vikings fasse une défaite, il faut que Sheffield aussi perde.
C'est ça.
Pour voir. Le Toulouse Olympique, 2e. Wakefield, on peut pas les battre. Hein. Donc franchement, 2e, ouais, ce serait bien.
Ils paraissent intouchables. Et franchement, par rapport au début de saison, on avait un peu couvert le début de saison du TO13. C'était un peu plus laborieux. On l'avait vu, ils traînaient autour de la 7e place. La 4e, ils reviennent en force. On dirait un peu Lyon en Ligue 1. Et franchement, ça fait plaisir. Toulouse joue le titre. On va passer aux 24 heures du Mans, l'événement mythique d'endurance automobile. Bah, s'est déroulé ce week-end sur le circuit Bugatti du Mans. Le mythique Ferrari a remporté évidemment ces 24 heures au terme d'une 92e édition incroyablement disputée dimanche, hein, sur le circuit de la Sarthe. La numéro 50 de l'Italien Antonio Foco et de l'Espagnol Miguel Molina et du Danois Niklas Nielsen s'est imposé. Ça fait plaisir, franchement, deuxième victoire d'affilée de Ferrari sur les 24 heures du Mans. Donc ils sont imposés devant la Toyota numéro 7 et l'autre Ferrari, la numéro 51, victorieuse l'an passé sur le légendaire tracé du Mans. Donc un quasi doublé pour Ferrari qui confirme leur excellente forme en endurance. Franchement, ça fait plaisir. La 51 qui avait gagné l'année dernière, qui est 3e. Franchement, ils nous régalent Ferrari. Même en Formule 1, ils reviennent à les 24 heures du Mans. Qu'est-ce qui se passe là?
Et oui, Raphaël, c'était la vittoria pour Ferrari. Cette année, le Mans, c'était incroyable. En plus, quand t'as Zidane qui fait le top départ... Hein. T'as vu, j'ai envie de voir ces 24 heures du Mans, vraiment, ça te donnait envie. Franchement, j'ai pas du tout été déçu, c'était incroyable comment cette course était très serrée. Il y avait beaucoup de duels, de dépassements, malheureusement des accidents. À la preuve, la 3ème Ferrari nous a lâchés, malheureusement. Ouais. Et sans parler du temps qui n'a pas du tout été avantageux pour les pilotes de Ferrari. Hein. Il a plu pendant 24 heures, là les 24 heures du Mans, j'ai l'impression qu'on était en Bretagne carrément.
Exactement.
Et même après 24 heures d'acharnement avec Porsche et Toyota, les concurrents directs, les deux Ferrari ont fini sur le podium. Et pour une fois que c'est la Ferrari numéro 50 de Nielsen, hein, justement, qui... Et de Pialguidi aussi, sachant que c'était la 51 de Giovinazzi, on s'en rappelle, l'ancien pilote de Formule 1, qui avait fini à la première position, comme tu avais dit, hein, j'en prends un peu comme ça. Mais voilà, Ferrari est de retour. On s'est fait une nouvelle rivalité avec Toyota, d'ailleurs, qui avait comme objectif de remporter à nouveau le Mans, avant qu'on arrive tout chamboulé deux fois de suite.
Exactement, le constructeur japonais qui avait de grandes ambitions, mais j'avais noté aussi un truc, c'était Alpine. Alpine, ça n'arrive pas en Formule 1, malgré le dernier Grand Prix. Mais là, au bout du 8e tour, ou de la 6e heure de conduite, l'Alpine qui tombe en panne aussi, on avait de grands espoirs, parce que c'est sûr qu'ils revenaient en endurance cette année. On avait placé de grands espoirs sur eux, c'est pour ça aussi qu'il y avait peut-être Zidane à la lancer, parce que Zidane, on sait qu'il est ambassadeur Alpine. Donc il y avait de gros espoirs sur les bleus blancs rouges, mais malheureusement, ça n'a pas été confirmé. Donc voilà, dommage pour Alpine, mais évidemment, Ferrari qui nous régale, et ça fait plaisir. Bon, l'émission touche à sa fin. On va pas se mentir que là, bon, c'était une très 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 grosse émission. Juste avant de partir, on va vous dire un peu les prochains événements. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, la semaine prochaine, on a évidemment évoqué la demi-finale de Top 14, Stade Toulousain contre Stade Rochelet le 21 juin. Il faudra regarder ce match. C'est le match d'accession à la finale. Toulouse qui vise le doublé, c'était pareil depuis pas mal d'années, donc ça fait plaisir. On espère l'équipe type, même du côté du Stade Rochelet. Je pense quand même une victoire toulousaine, parce que franchement, c'est une des meilleures équipes qu'on a eues depuis très longtemps.
N'empêche, quel dilemme, hein. Là, vendredi, c'est soit tu regardes France-Pays-Bas ou Stade Toulousain, Stade Rochelet. Et vu qu'on est à Toulouse, on aura les deux, ça va être très compliqué.
Un œil à gauche, un œil à droite, ça va être pas mal. Mais justement, tu as évoqué l'Euro et le match de la France, hein, à 21h. Contre les Pays-Bas, ça va être un match assez intéressant, plus ouvert, je pense, et on va plus se régaler que contre l'Autriche. Et on a noté, il y a 17 matchs en une semaine quand même. Qu'est-ce que j'adore cette période de l'Euro, 17 matchs de foot en une semaine. On va encore se régaler, il y aura plein de trucs à traiter la semaine prochaine, qui sera sûrement la dernière de la saison. Donc on va en profiter. Il y aura aussi la Copa América, donc 8 matchs en une semaine, c'est un peu moins garni évidemment, parce que le continent est un peu plus petit. Enfin, un peu plus petit en termes de pays évidemment. Mais voilà, après il y aura le Grand Prix de Barcelone le 21 juin qui reviendra, les essais libres à partir du 21 juin, donc le Grand Prix de Barcelone, l'Europe est encore à l'honneur en Formule 1, et le Grand Prix aussi des Pays-Bas sera pas cette semaine mais sera dans deux semaines. Ou voilà, peut-être une victoire de Ferrari encore, 24 heures du Mans, une victoire à Barcelone, on peut espérer. Donc bon, bah franchement, on a du lourd pour la semaine prochaine, et peut-être en vrai, c'est toujours un plaisir, hein, de faire cette avant-dernière du coup émission de la saison. On s'est toujours régalé, merci à toi aussi Yanis d'être intervenu, ça fait plaisir, franchement toujours pertinent. Alex, t'en as pensé quoi l'émission?
Franchement, là on vit une période incroyable, l'Euro, en fait il y a tellement d'événements là, c'est pour ça que l'émission était assez longue, c'était incroyable d'en parler. Et t'as dit avant-dernière, on sait pas, peut-être ça va être la dernière.
Peut-être la dernière, avant-dernière, on verra bien,
En tout cas, merci beaucoup à toi Léo, c'était incroyable, tu nous as suivis depuis janvier,
exactement.
Additionnel, vraiment s'est amélioré et... Vas-y, si tu veux.
Un plaisir de vous avoir accueilli, écoutez, d'avoir vu l'émission grandir, et j'espère que vous pourrez continuer tranquillement l'année prochaine.
Ouais, moi, en tout cas, objectif continuer l'année prochaine, mais ouais, de toute façon, merci à Léo, merci à tout le monde. Et puis avec Alexandre, de toute façon, on vous dit un dernier de la saison.
Ouais, voilà.
On le dit ou pas?
Allez, on le dit.
Allez, à la semaine prochaine.